d'être ici et on me souhaite la bienvenue, mais je suis chez nous ici. Alors, bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. Je suis vraiment privilégiée d'être ici ce matin pour la fête des mamans. Alors, les mamans, levez la main. Levez la main. Alors, les personnes à côté des mamans, on les applaudit, oui! C'est des héroïnes, c'est des femmes exceptionnelles et on vous aime. L'Église Nouvelle Vie vous aime et a besoin de vous pour son Église. Amen! Alors, et oui, ça fait, je vais vous parler un peu de l'Ukraine parce qu'on me pose plein de questions. Et oui, j'ai passé du temps en Ukraine pendant la guerre. Et oui, je reviens de la guerre. Ça fait un mois et deux mois peut-être que je suis de retour. La façon ça s'est passé, laissez-moi vous expliquer un peu. L'année passée, recule. Oui, c'est vrai, je suis une maman moi aussi. Je vais vous présenter ma famille. Je suis désolée, j'ai hâte de commencer. Alors, je suis une maman, mais je vais être une grand-maman aussi bientôt. Ouh! J'ai hâte de voir que ça va l'air. Mais... Fait que là, vous voyez mes deux fils, c'est des jumeaux que j'ai eus. Et j'ai eu des filles, j'ai des belles filles. Alors, j'ai grossi ma famille. Je suis rendue une maman de deux fils, de deux belles filles et une petite fille qui s'en vient dans le mois passé prochain. Alors oui, je suis très, très fière et heureuse. Alors, je voulais, prochaine photo, on est rendu là. Oui, c'est ça. Je voulais vous montrer un peu, vous remercier vraiment de tout mon cœur de l'appui que Nouvelle Vie a démontré envers l'Ukraine. C'est vraiment extraordinaire qu'est-ce qu'on a pu ramasser. Et juste pour vous dire, parce que là, on donne des sous, qu'est-ce que tu fais avec mon argent? C'est ça la question, hein? Alors, je me suis dit, je vais prendre un petit deux minutes, je vais leur dire qu'est-ce qu'on fait avec vos sous. Alors, voici, quand je suis revenue, on m'a demandé de mettre un plan en place pour aider l'Ukraine, que ça puisse se multiplier. Parce qu'on ne veut pas juste payer pour un article, mais on veut que ça se multiplie. C'est ça l'objectif. Alors, vous voyez, qu'est-ce qu'on finance? Les trois maisons, c'est trois centres de ravitaillement. Alors, on envoie de la nourriture qui est envoyée de différents pays, qui sont achetés. On les envoie dans nos centres de distribution qui sont ici. Vous voyez, à Lviv, c'est sur le bord de la frontière, la Pologne. Et sur ce côté ici, là, vous voyez, sur ce côté-là. Et de l'autre côté, vous voyez le Donbass, Kharkiv, Dnipro, Mariupol. C'est là où ce que le cœur de la guerre se produit. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que nos centres d'approvisionnement sont plus dans l'ouest du pays, mais on paye des églises qui sont dans ces villes-là touchées par la guerre, que j'ai communiqué avec, et on paye des véhicules, on paye des pasteurs qui sont déjà sur place et qui font déjà ça, mais on les finance pour aller chercher dans les centres de ravitaillement et ramener la nourriture dans les villes de l'Est parce que tu ne peux pas déplacer la nourriture dans les gros camions, c'est trop visible. Alors, c'est des petites vannes, des minibus. Mais de plus, ces pasteurs-là, ces runners que j'appelle, vont dans les villes. Oui, ça, c'est mon premier cargo qui est arrivé jeudi. Alors, bravo, je suis fière. Alors, la nourriture est arrivée à Poltava et elle a pu être distribuée dans le Donbass, dans le Kharkiv, Kiev, dans ces régions-là. Et de plus, ce qu'on fait avec les mini-véhicules, c'est qu'ils ramènent la nourriture dans les villages et dans les villes qui sont affectées par la guerre. Mais on évacue des réfugiés. Alors, des petits villages où l'autobus n'a pas accès, le train n'a pas accès, où les dames, les mamans, les enfants n'ont pas de véhicule pour se déplacer, nos petits véhicules vont aller dans ces petits villages-là, vont ramasser les réfugiés, ils vont les évacuer dans les villes de l'Ouest. Alors, on a estimé à peu près, ça va être 400 réfugiés qu'on va évacuer par mois grâce à votre soutien. C'est incroyable, vraiment, merci beaucoup. Alors, moi, j'ai commencé pour de où je viens de là, c'est que j'ai commencé, voilà un an, je voulais faire plus. Pour moi, je m'étais dit, je veux faire encore plus. Alors, j'ai donné mon nom à un organisme qui s'appelle Samaritan's Purse. Samaritan's Purse a une équipe qui s'appelle DART. DART, c'est Disaster Assistant Rescue Team. Alors, l'année passée, j'ai donné mon nom, j'ai suivi un training, une formation d'une semaine. Je suis allée à Calgary. C'était une formation sur le terrain, formation de sécurité, formation de carjacking et tout ce qui en coule de ces pays qui sont en difficulté. Alors, j'ai fait mon cours au mois d'octobre et oui, la guerre est arrivée au mois de février. Alors, le 23 février, la guerre a été déclarée. J'ai été appelée le 24 février à déployer le lendemain. Alors, le lendemain, il fallait que je fasse ma valise et je suis partie. On m'a rentrée en Pologne pour commencer. Alors, de la façon que ça se produit, c'est lorsque tu es en Pologne, j'étais avec l'équipe, il y avait à peu près 20-25 personnes. C'était toutes des personnes avec beaucoup d'expérience. J'étais la seule avec son premier voyage en déploiement, le premier déploiement, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, la première activité qu'on fait lorsqu'on arrive sur un territoire, c'est qu'on fait une évaluation des besoins. On évalue là où le besoin serait plus criant pour nous d'investir. Alors, on était en Pologne. En Pologne, je vous le dis, les Polonais, le pays de la Pologne prend bien soin des réfugiés qui rentrent. Il y a des millions de réfugiés qui rentrent en Pologne. Mais ils prennent vraiment soin. Il y a des grands centres de refuge. Je vais à la gare. À la gare, les citoyens ont laissé des carrosses, des pousse-pousse pour les enfants, des chaises roulantes, pour que lorsque les réfugiés descendent de la gare, ils ont juste à prendre la chaise roulante, prendre le pousse-pousse qu'ils ont besoin et partir avec. Alors, la Pologne était vraiment en bonne situation pour prendre soin de ses réfugiés. Alors, ce n'était pas là notre besoin, notre place. Et c'est là que j'ai passé, vous avez vu probablement les vidéos, que j'ai passé une journée entière à la frontière de l'Ukraine et de la Pologne. J'étais sur le côté de l'Ukraine. C'était une journée vraiment difficile, chargée d'émotions, parce que j'ai vu des milliers de personnes transiger par cette douane-là. C'était une mer de réfugiés qui rentrait. Les gens étaient tellement tristes, désespérés, angoissés, parce qu'ils laissaient leur famille derrière. Les hommes n'ont pas le droit de traverser. Ils ne peuvent pas partir du pays. Ils doivent demeurer dans le pays. Alors, j'ai prié avec des mamans qui pleuraient parce qu'ils laissaient leur mari, ils laissaient leur père, ne sachant pas s'ils étaient pour les revoir un jour. Alors, c'était vraiment la tristesse et l'angoisse. Mais encore là, on a estimé qu'à la douane, le besoin était rencontré, le besoin physique. Alors, c'est là que la décision a été prise de rentrer à l'intérieur de l'Ukraine. Alors, nous, étant Samaritan's Purse, l'organisme a beaucoup de capacités. Alors, il y avait la capacité de rentrer. Ils ont choisi une ville qu'ils ont établie qui s'appelle Lviv. Lviv, c'est à peu près à 2 heures de route de la frontière. Et là, ils ont établi un hôpital complet, 150 personnes avec, il y avait toutes sortes de salles d'opération, il y avait des scans, il y avait toutes sortes d'équipements. Et ils ont établi leur ville, leur base à Lviv, dans un centre d'achat, le parking, le stationnement souterrain du centre d'achat. Imaginez-vous, quartier 10-30, le souterrain du quartier 10-30, c'est un hôpital complet. C'est utilisé là, pour un centre d'hébergement, pour un organisme et un hôpital. Alors, avec tout ça, moi, c'était quoi ma position? Qu'est-ce que tu as fait en Ukraine? Médecin? Non. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, moi, mon travail, lorsque je suis arrivée en Pologne, c'était lorsqu'on a décidé d'aller en Lviv, à la ville de Lviv, c'était d'établir c'était quoi le besoin. Alors, moi, je n'ai pas de contact en Ukraine. Je viens d'arriver en Pologne, ça fait 2-3 jours, et là, il faut que je me trouve des amis en Ukraine. Alors, eh oui, j'ai utilisé Facebook, j'ai utilisé Messenger et j'ai utilisé, pas Twitter par exemple, mais LinkedIn. Alors, je trouvais des pasteurs, des églises, j'ai trouvé un conseiller de la ville de Lviv. Alors, je lui écrivais, je lui dis bonjour, mon nom est Sonia Massot, vous ne me connaissez pas, mais je travaille pour un organisme international, on aimerait vous apporter de l'aide, de quelle façon on peut vous aider? Alors, ils m'envoyaient leurs besoins, il y avait besoin des matelas, des couvertures, des produits d'hygiène, il y avait besoin de la nourriture. Alors, ils m'envoyaient leur liste. Un coup que j'avais sa liste, mon but, mon objectif, mon travail était de trouver cette nourriture-là. Mais imaginez, en Pologne, il y a des millions de réfugiés qui rentrent. Alors, tout part. Tout est parti. Alors moi, je cherche des compagnies, des distributeurs de différentes sortes, de grosses quantités pour pouvoir acheter la nourriture, pouvoir acheter les produits. Mais là, un coup, tu as trouvé les compagnies, il faut que tu payes. Mais là, les autres, ils prennent pas de cash, même si j'ai du cash. Ils prennent pas de cash. C'est des pays comme nous, là. Le gouvernement, il faut qu'il trace ton argent. Alors, pas de cash, pas de carte de crédit, parce que c'est des grosses compagnies distributrices. Il faut faire des transferts bancaires, mais ça peut prendre de 5 à 10 jours ouvrables. Et là, la frustration, elle peut accumuler assez rapidement. Parce que tu essaies de faire rentrer de la nourriture. Le pasteur t'appelle, te dit, j'ai besoin, est-ce que tu t'en viens? Oui, attends, là, la compagnie ne veut pas. Bon, travaillez fort. Et souvent, j'allais prendre une marche. J'allais respirer, j'allais prier. Seigneur, tu es la solution. Moi, je ne peux pas faire, je suis limitée. Et Dieu a pourvu, Dieu a entrepris. Et les portes se sont ouvertes. On a pu avoir de la nourriture, pour avoir des matelas, des couches. Couches pour bébés, couches pour enfants, des produits d'hygiène. On avait toutes sortes des lumières et toutes sortes de produits qu'on avait sécurisés. Mais là, moi, on ne m'avait toujours pas dit que j'entrais en Ukraine. J'étais toujours en Pologne. Tout ça se déroule rapidement. Là. Je vous le raconte. Là. Ça a l'air long, mais non, ça a pris quelques jours. Ça va vite là-bas. Puis tu travailles des 12 heures. Fait que c'est long les journées. Alors là, un samedi, un de mes collègues de travail me dit, il y a une réunion de prière pas loin du lieu où on était. Est-ce que tu aurais le goût d'y aller avec moi? J'en avais besoin. Il y a des bouts, là, quand tu es devant l'impossibilité, la seule chose que tu peux aller, c'est devant Dieu le Père et prier et qu'il te remplisse, te donne la force et le courage. Je dis, oh, j'en ai besoin, j'y vais. Alors, j'accompagne mon collègue de travail, on y va. C'est des témoignages, je m'assis, j'écoute les témoignages, mais là, j'ai juste le goût de prier puis louer Dieu. Fait que là, il commence à chanter et là, je me lève les mains puis, oh, le Seigneur, il vient. Je sens sa présence, ça me fait tellement du bien. Et tout d'un coup, j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, « Tu marcheras dans la vallée de l'ombre et de la mort, mais tu ne craindras aucun mal, car je serai avec toi. » À ce moment-là, je n'étais pas cédulée pour rentrer en Ukraine. Le Saint-Esprit me préparait, puis me disait, « Tu n'auras aucune crainte, parce que je serai avec toi. » Alors, 2 jours après, je me suis retrouvée en Ukraine. Ça va vite! 2 jours après, je me retrouve en Ukraine, à Lviv, sur notre base. Alors, c'est des tentes, tu couches dans un stationnement, il y a des abris pour les bombes, il y a tout ça. Quand tu rentres dans le pays, tu vois la guerre. La différence entre la Pologne et l'Ukraine, tu la vois tout de suite. Tous les barrages militaires, tu dois arrêter, présenter ton passeport, les tanks, toutes les affaires, tu sais, les grosses boules en métal là, qui sont sur sa route. Là, en tout cas, vraiment, le pays est en guerre et tu le vois et tu le sens. Les sirènes qui roulent quand il y a des alertes aux bombes. Alors, tout ça, je le vivais en Ukraine. Mais moi, quand je suis rentrée en Ukraine, j'avais 3 projets à mettre en place. C'était mon objectif, c'était ce que j'avais travaillé sur en Pologne et j'entrais pour servir, pour faire 3 programmes en place. Le premier, c'était de soutenir les 500 centres d'hébergement à Lviv. À Lviv, il y a 500 centres d'hébergement et plus dans des gyms, dans des écoles, dans des centres communautaires. Ils mettent des matelas, ils accueillent des gens, des millions de personnes qui transigent dans cette ville parce que c'est la plus grosse ville avant d'entrer en Pologne. Alors, plusieurs des millions de personnes qui transigent à travers cette ville-là. Je devais soutenir ces centres d'hébergement-là avec les achats que j'avais faits. Le troisième programme que j'avais, c'est qu'il y avait des orphelinats. Il y avait une orphelinat spécifique dans laquelle je voulais rentrer. Cet orphelinat accueille 40 enfants, mais dû à l'évacuation des villes de l'Est, tous les enfants ont été évacués dans Lviv, dans cet orphelinat-là. Alors, ils avaient doublé leur capacité d'enfants dans cet orphelinat-là. Alors, je les ai aidés avec vêtements, nourriture, avec des jeux, avec toutes sortes de choses. Imaginez, ces enfants ont perdu leurs parents. Là, ils perdent leur ville, ils sont en déplacement, il y a des bombes, il y a tout ça. Alors, on les a vraiment bénis, ces enfants-là. Ça me tenait très à cœur. Et mon troisième projet, c'était de faire rentrer de la nourriture de Lviv, la Pologne à Lviv, où était notre base, et de la faire rentrer dans les villes de l'Est, là où il y avait la guerre. Alors, c'était un de mes objectifs. Et pour ce faire, je devais avoir des petits camions, des petites vannes. Mais tout ça, c'est beaucoup de frustration, je vous le dis. Écoutez, juste faire traverser la nourriture par la frontière, ça prend des papiers, des formulaires, ça prend... Hein? Après ça, bon, un coup que la nourriture est arrivée, elle n'était pas arrivée encore, mais elle s'en venait. Un coup, là, c'est faux. Le camion, le transport, c'est pas n'importe qui veut envoyer son camion dans un pays de guerre. Ça vaut des assurances, ces camions-là. Et là, les camions, un coup, la nourriture arrivait à Lviv, où c'était quand même une ville assez sécuritaire. Là, il fallait que je les envoie, cette nourriture-là, dans les villes de l'Est, dans les villes où il y avait des bombardements. Mais c'est pas tout le monde qui veut louer son camion pour ça, là. Alors, c'est trouver des camions, les louer, c'est trouver des compagnies qui sont ouvertes parce que la moitié du pays est fermée. Et de plus, c'est pas fini. Il y avait le gaz. Faut-tu mettre du gaz dans ton char? Et là, tu es limité à 20 litres par personne, par véhicule. Tu peux pas mettre plus que 20 litres. Et quand il y a du gaz, il y a des filets qui attendent. Alors, défi, il y en avait. Hein? C'était un gros défi avec une grosse lettre au début. Et j'étais dans un centre d'achat. Alors, souvent, je montais en haut. J'étais dans le stationnement en bas. Il faisait froid. Je montais en haut là, quand j'étais désespérée. Là. Je montais en haut. J'avais une petite chaise juste en avant du Zara qui était fermée. Oui, je dis, c'est vraiment weird. Parce que le centre d'achat, il était moitié fantôme, moitié... Fait que j'avais ma petite chaise devant le Zara. Là, j'allais toujours prier. « Seigneur, je réclame tes promesses. Seigneur, je réclame tes promesses. Pourvois, j'ai besoin de la nourriture qui rentre. J'ai besoin des petites vannes. J'ai besoin que tu pourvois pour ci, pour ça. » Je saisissais les promesses de Dieu et je ne les laissais pas aller jusqu'à temps qu'ils aient leur accomplissement. Seigneur, tu veux le bien pour ces pasteurs-là. Tu veux le bien pour ce pays-là. Pourvois pour chacune des choses. Alors, ma prière était constante devant ma petite chaise, devant le Zara. Je trouvais la paix dans cette petite chaise-là pour trouver la force et le courage de continuer. Et là, je descends en bas après ma prière. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin des petites vannes pour les faire envoyer cette nourriture-là dans les pays, dans les villes de l'Est. Et j'appelle un pasteur qui est à Poltava, qui est vraiment pas loin du Donbass. Je dis, écoute, je veux faire venir la nourriture, je veux te l'envoyer, tu en as besoin, je sais que tu la réclames, mais je n'ai pas de véhicule, j'ai besoin de louer un véhicule. Qui je peux appeler? Tu connais-tu quelqu'un à Lviv? Et là, il m'envoie Pasteur Igor. J'appelle mon Pasteur Igor. Pasteur Igor, est-ce que vous auriez des vannes pour moi à louer? Il dit, bien, viens me voir. C'est ça que je vais aller vous voir. Alors, un dimanche matin, je vais à son église, une belle église. Je vous dis, elle ressemble à ça ici, des jeunes familles, un café en arrière. C'est vraiment l'Ukraine, ça ressemble à nous, là. Alors, il me dit, c'est quoi t'as besoin? Je dis, bien, écoute, je veux faire apporter la nourriture à Lviv, notre base, dans les villes de l'Est, au Donbass, Kharkiv, Kiev et tout ça. Mais j'ai besoin de véhicules. Il dit, combien t'en veux? Bien, je dis, j'en veux 10. J'en ai besoin de 10. Il dit, quand t'es veux, je les veux jeudi, qui s'en vient, on est dimanche. Ben, il dit, tu vas les avoir. J'étais, ah là là, hey, Seigneur, tu es si bon pour moi. Vraiment, là, j'avais dit jeudi, mais entre-temps, ma nourriture a été retardée. Eh oui, j'ai retourné à ma chaise aux arabes. Pour prier, Seigneur, Seigneur, je veux avoir ma nourriture, je veux qu'elle rentre. J'ai besoin qu'elle rentre, Seigneur. Et là, moi, je partais le vendredi. Vendredi matin à 7h30, les petits véhicules étaient là, ma nourriture était là. J'ai rempli chacun de ces petites vannes-là, j'ai rempli. J'ai parti à vendredi midi et tous mes véhicules étaient remplis et parti dans les villes de l'Est. Je suis atterrie le dimanche à Montréal et j'ouvre mon téléphone et je reçois une photo. Une photo, je ne sais pas si on peut la voir, une photo de femmes et d'enfants. Moi, je remplissais les véhicules de nourriture, Mais eux, arrivés dans les villes de l'Est, ils les remplissaient de femmes, d'enfants, de personnes qui avaient besoin, qui n'avaient pas de possibilité pour sortir. Ils remplissaient puis ils les évacuaient. J'étais tellement bénie, je pleurais avec tous ces efforts donnés, toute cette angoisse-là, ça valait la peine parce qu'il y a des vies qui étaient sauvées. J'étais tellement bénie d'avoir été utilisée par Dieu pour sauver des vies, pour aider ce pays de l'Ukraine. Ça n'a pas été sans difficulté. Le vendredi avant de partir, à 6 km de ma position, il y a 3 missiles qui ont tombé. Fait que là, j'ai dit, ah, ben c'est vrai, je suis vraiment un pays de guerre quand même. Moi, je suis tellement occupée. Mais Dieu s'est servi de moi pour pouvoir aider ce pays. Et là, on continue avec le programme pour le financement de nouvelles vies. On continue à pouvoir soutenir ces églises-là, pouvoir évacuer des gens qui en ont besoin. Vous pouvez vous demander comment une simple femme, parce que je n'ai pas grand-chose de talent, puis à part de demander puis d'être tenace, c'est pas mal mes seules qualités que j'ai. Comment une simple femme comme moi a pu se rendre en Ukraine? Comment être utilisée par Dieu de cette façon-là? Pourquoi faire tout cela? Ce matin, le titre de mon message, et oui, ce n'était pas mon message. Là, vous êtes assis, vous êtes obligés de rester. Alors oui, le titre de mon message, c'est « Comment j'ai fait tout ça? » J'ai fait le même parcours que Ruth. Et oui, Ruth dans la parole de Dieu, vous la connaissez l'histoire? Est-ce que qui la connaît l'histoire de Ruth? L'histoire de Ruth, je vais vous faire un petit court résumé. L'histoire de Ruth commence avec Naomi. Naomi est une femme, une maman, elle a deux fils, elle a un mari. Et dans la ville de Bethléem, où ils résident, ils ont un terrain, ils ont une terre. Mais là, c'est la sécheresse. La sécheresse est tombée. Plus rien pousse. Plus rien. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus de semences. Ils n'ont plus quoi que ce soit. Alors, le mari de Naomi décide de prendre sa famille et de quitter le pays. Ils s'en vont vers le pays de Moab. Moab, ce n'est pas un peuple qui est aimé de Dieu. Pourquoi? Le peuple de Moab, vers lequel il se tourne, est originaire de Lot, de sa relation incestueuse avec sa fille aînée. C'est un peuple qui est rejeté par le peuple d'Israël. C'est un peuple qui adore toutes sortes de faux dieux, qui ont des mauvaises habitudes et tout. Le séjour de la famille d'Émilec, qui devait être pour un court temps, dure plus de 10 ans. Et malheureusement, après 10 ans, le père Émilec meurt. Il laisse sa femme et ses deux fils, qui, eux, ne décident pas de retourner. Eux décident de rester dans le pays et d'épouser deux femmes moabites, qui est contraire à la loi de Dieu. Mais il marie quand même ces deux femmes-là. Mais après 10 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est à tous les 10 ans, il y a quelque chose qui se passe. Ça faudrait étudier ça, là. Mais après 10 ans, les deux fils meurent. Et il laisse dans le deuil Naomi avec les deux belles filles, sans de petits-enfants. Puis Naomi entend une bonne nouvelle, enfin une bonne nouvelle. Elle entend que Dieu a visité son peuple, que Dieu a visité le peuple d'Israël, qu'il y a l'abondance qui est là-bas. Alors elle décide de retourner parce qu'elle a resté attachée. Malgré ces 20 ans-là, elle a resté attachée à son Dieu, à son peuple. Et elle veut retourner vers ce qu'elle connaît, ce qu'elle sait qui est vrai. Elle choisit de faire le chemin de retour, qui est un long chemin, difficile et ardu. Elle désire retourner dans son pays. Mais ses belles filles, elle sait qu'il n'y a aucun avenir pour elle dans le pays d'Israël. Il n'y a aucune possibilité. Il n'y a aucune possibilité d'avenir pour elle. Alors, elle les incite de rester. Elle incite ses belles-filles à rester dans le pays. Venez pas avec moi. On le voit dans Ruth 1:8. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers moi. » Ceux qui sont morts et envers moi, Naomi. Naomi n'avait rien à offrir à ses belles-filles. N'avait aucun avenir pour elle. C'est à ce point de l'histoire que les héros montent. Hein? Lorsqu'ils semblent tous espérés, on a perdu toute chose, perdu mari, perdu pays, Naomi, elle semble n'avoir rien. C'est à ces moments-là qu'on voit les héros qui émergent. Les héros se démarquent lorsqu'il n'y a plus d'espoir, où tout nous semble perdu. Ruth, On la voit pour la première fois s'élever. Ruth, cette femme, se démarque de sa belle-sœur pour le choix qu'elle fait à ce moment-là, précis de l'histoire. Nous n'aurions pas du tout la même histoire si Ruth n'avait pas demeuré ferme dans son attachement avec ce qui est des choses de Dieu. Parce qu'ici, c'est ce que Naomi représente, les choses de Dieu. Le choix que l'on fait dans les moments de sans-espoir, quel attachement allons-nous avoir? Ruth, ici, l'attachement était déterminé à rester attaché à Naomi. Elle était déterminée. Son histoire a été totalement différente si elle n'aurait pas choisi d'être attachée à Naomi, d'attacher aux choses de Dieu. On le voit dans Ruth 1:14, Orpa baisa sa mère, mais Ruth s'attacha à elle. Dans cette histoire de désespoir, il y a une femme étrangère, Ruth, qui s'attache à Naomi. Elle s'attache à sa culture, à son Dieu, à son peuple. Elle ne veut plus de ce qui est de Moab. Elle a goûté au vrai Dieu et désire ce que Naomi a. Elle ne veut plus retourner derrière. Elle ne veut plus de son ancienne vie. Elle a goûté à quelque chose de plus grand. Ruth 1, 16-18 le dit très bien. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. » Wow! Quelle déclaration d'attachement que Ruth fait. Je m'attache à toi, je m'attache à ton Dieu. Je ne veux plus de mon ancienne vie. Je veux rester où la présence de Dieu est. C'est toi, Naomi, je demeure attachée à toi. Naomi devient la mission de Ruth. Elle s'attache, elle a à cœur la cause de Ruth, de Naomi. Son cœur a été touché et changé pour toujours. Peu importe le prix, Ruth est prête à le payer. Cela demande à Ruth le sacrifice de son futur. Ça demande sacrifier des possibilités de bien vivre avec un mari dans son pays pour aller vers un pays qui allait la rejeter. C'est quoi la logique? Où, selon la coutume, aucun mari ne voudrait l'épouser. Ça n'avait aucun bon sens que Ruth a choisi. Mais c'était ça qui était dans son cœur. Vous savez que moi, je me suis retrouvée, quand je vous ai dit, j'ai fait le parcours de Ruth, moi, je me suis retrouvée dans cette même position-là. Je me retrouvais dans la même position que Ruth. J'ai dû faire le choix. Lorsque j'ai perdu mon mari, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon avenir, je ne savais pas où je m'en allais. J'avais le choix de Ruth à faire. Est-ce que je reste attachée aux choses de Dieu? Parce que je travaillais pour Action Nouvelle Vie. Je savais que c'était ça ma voie, que Dieu voulait ça pour moi, que je continue à m'attacher à sa cause, à m'attacher à la cause des défavorisés, à m'attacher aux choses de Dieu. Mais là, on m'a offert des positions, on m'a offert des salaires à l'extérieur, aller travailler dans des places où c'était bien rémunéré. J'avais le choix, le même choix que Ruth. Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est dans cette période que l'on m'a fait, oui, des poches. J'avais le choix d'être Orpa ou d'être Ruth. M'attacher aux choses que je savais étaient la volonté de Dieu pour moi. Prendre un chemin qui était incertain. J'avais deux fils à élever. J'avais deux fils à supporter. Comment est-ce qu'on peut faire ça en travaillant pour une banque alimentaire? C'était bien plus facile pour moi d'aller trouver un travail séculier, faire des beaux salaires, des gros salaires pour pouvoir supporter ma famille et avoir un avenir certain. J'ai fait un choix de Ruth, de demeurer, de m'attacher aux choses de Dieu. Ruth a trouvé sa mission, soutenir ceux qui sont dans le besoin. Pour Ruth, cela représente Naomi. Ruth s'attache à cette cause. Cette déclaration, « Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Je ne veux plus de mon ancienne vie. C'est toi que je choisis. Je choisis la cause de Christ. » Elle a fait de choisir la cause du Dieu réel. Elle avait enfin trouvé un but à sa vie, autre que soi-même. Elle avait une soif que plus que métro, boulot, dodo. Ce n'est pas juste ça que je veux faire dans la vie, moi. Même si cela demandait de tout sacrifier, d'aller où elle n'avait jamais été, d'aller contraire à tout bon sens, Ruth a fait ce choix de se lancer dans le vide parce qu'elle voulait rester attachée au Dieu réel. Ruth, elle avait trouvé un sens à sa vie. C'est ce même choix que j'ai fait. Je ne voulais pas vivre pour mes trop boulots dodo, je voulais beaucoup plus. Je veux plus que ça dans la vie, moi. Ma prière depuis longtemps, voici ma prière depuis longtemps. Seigneur, je veux faire les choses qui comptent, vraiment. Celles qui ont une véritable valeur. Je veux que ma vie ait valu la peine d'avoir été vécue en faisant les choses qui comptent vraiment. Mais trop boulot, c'est beau, on le fait, mais c'est... Ça roule toute seule, mais qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce qui compte vraiment? Pour moi, je me suis attachée à ce qui compte vraiment. Et ce que Ruth a fait, elle s'est attachée à la cause de Christ. Naomi était une veuve qui a tout perdu. Mari, enfant, situation. Il n'y a plus d'hommes pour prendre soin de cette grand-maman-là, de Naomi. Lorsque Naomi arrive à Bethléem, elle doit quémander sa nourriture. Naomi représente les personnes dans le besoin qui ont tout perdu autour de nous. Elle représente une personne démunie financièrement, spirituellement, émotionnellement. Ruth s'est attachée à la cause de Christ, à la cause de Dieu. Elle voulait faire ce que Dieu, ce qui comptait vraiment. Elle s'est attachée à sa cause de Naomi. Notre héroïne à l'œuvre. À l'arrivée des deux femmes dans la ville de Bethléem, la ville est émue de compassion de les voir arriver. Naomi est partie avec beaucoup et ne revient avec rien, qu'une simple fille moabite. Mais notre héroïne Ruth ne s'appuie pas sur son sort. Elle semble être une femme de type active. Elle fait, il y a quelque chose, je vais le faire tout de suite. Il y a un besoin, on répond tout de suite. Aussitôt arrivée dans la ville, elle cherche des solutions pour soutenir sa belle-mère, sa personne dans le besoin. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est un proverbe que j'aime beaucoup, ça. Elle n'attend pas, elle avance pour rencontrer le besoin de sa belle-mère. Ruth 2, 2 à 3. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui auquel, des yeux auxquels je trouverai grâce. » Elle répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Wow! Savez-vous que moi, mon travail à Action Nouvelle Vie, c'est ça que je fais? Je vais derrière les moissonneurs. Je vais derrière les compagnies. Naomi, Ruth, elle va derrière les glaneurs, ramasse les restants, les ramène à sa personne dans le besoin. Moi, c'est ça que je fais. Je travaille dans une banque alimentaire. Je vais rencontrer les compagnies. Je leur dis, donnez-moi vos restants. Je ramasse les restants. Je les ramasse par camion, par exemple. Mais... Je ramasse les restants et qu'est-ce que je fais? Je les amène à mes personnes défavorisées. C'est ça que Dieu il m'a accordé à faire. Je m'attachais à sa cause. Et qu'est-ce que ça dit? Comme Ruth, moi je vais aller derrière les moissonneurs, mais comme Ruth, Dieu accorde sa bénédiction à ceux qui soutiennent sa cause, à ceux qui s'attachent à lui. Dieu accorde sa bénédiction. C'est marqué dans Ruth 2, 12, écoutez bien, que l'Éternel rende tout ce que tu as fait, que ta récompense soit entière, pleine de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sous les ailes, tu es venu te réfugier. Ruth avait été trouvé un refuge sous les ailes du Dieu Très-Haut. Elle s'était attachée à la cause. Elle avait pris soin des personnes dans le besoin et Dieu l'avait bénie. Dieu l'avait récompensée. Ce n'est pas un chemin qui est facile. Ruth, elle n'a pas fait un chemin facile. Dans Ruth 1, qu'est-ce qu'on fait? On voit, dans Ruth, c'est vraiment clair. Ruth 1, on voit les choix. Les choix de Naomi, de retourner dans son pays. Le choix de Ruth, de suivre sa belle-mère. Dans chapitre 1, c'est tous les choix des personnes. Émilie qui a fait un choix. C'est tous des choix de différents et le tracé qui se profile devant eux. Mais lorsqu'on regarde le chapitre 2, qu'est-ce qui arrive? Chapitre 2, Dieu prend contrôle. Chapitre 1, c'est les choix. Le chapitre 2, Dieu est en contrôle. Qu'est-ce qui arrive? Les hasards de Dieu. Ah! Toutes sortes de hasards se produisent dans le chapitre 2. Cette femme cherche du travail pour nourrir sa belle-mère. Elle quémande dans un champ qui se trouve par hasard à Boaz, leur proche parent. Un hasard. Verset 4. Voici vint de Bethléem Boaz. Un autre hasard. Cette journée-là, il décide de venir. Un hasard de Dieu. Par hasard, il vient visiter son champ. viens voir qu'est-ce qui se passe. Par hasard, il la remarque. Par hasard, il s'intéresse à elle. Chapitre 1, c'est les choix que l'on fait. Les choix de différentes personnes qu'ils ont fait. Chapitre 2, lorsque tu fais tes choix, Dieu embarque dans l'histoire. Dieu prend contrôle et trace le chemin. Et les hasards se font. Mais ce chemin-là, il n'est pas sans risque. Ruth n'a pas choisi une mission sans risque. Partir sans savoir. Elle ne savait pas de où ce qui était fait son lendemain. Elle ne savait pas son avenir. Elle se lève pour aller dans un champ. Elle ne sait pas au risque. Même Boaz lui dit, « Reste près de mes serviteurs pour pas que personne te touche. » C'est des choix qui ne sont pas faciles non plus. Ruth, elle a choisi. Dieu a commencé à prendre contrôle. Et là, on tombe dans le verset 3. Le verset 3, c'est une promesse qui est là. Il y a une promesse qui est là. Là, on a vu tout le cheminement de Ruth. Mais il y a quelque chose qui est là. Il y a une promesse qui est là à quelque part. Et Naomi, elle sait c'est quoi cette promesse-là. Écoutez bien. Naomi dit à Ruth, Ruth 3:2, « Tu sais que Boaz, notre proche parent, ça, ça veut dire qu'il y a une promesse. Laissez-moi vous lire cette promesse-là. C'est dans Luc 20:28. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. » Il y avait une promesse qui était là. Et ça, ça s'attachait aussi à la terre, au terrain que Naomi avait. La loi était là depuis le début. Il y avait quelque chose qui était écrit. Mais si tu ne la saisis pas, c'est juste une écriture sur du papier. C'est juste des lettres sur du papier. Si tu ne prends pas possession de cette loi, de cette promesse qui est là, c'est simplement du papier sur lequel a été écrit. Je vous ai dit, moi, je travaille pour Action Nouvelle Vie et je fais de la sollicitation. Je vais chercher des financements, je vais chercher des dons. C'est ça mon travail. Je fais le travail des... Je vais derrière les moissonneurs. Je vais ramasser ce qui reste. Des fois, il y a des gros restes, des petits restes, toutes sortes de restes. Et il y a une banque qui soutient le 21-59. Ça fait longtemps qu'ils soutiennent le 21-59. Et le VP de la banque, pendant des années, a été notre président d'honneur de notre souper bénéfice. Alors, à chaque année, c'était notre président d'honneur du souper bénéfice d'Action Nouvelle Vie pour ramasser des fonds pour le 21-59 et pour Action Nouvelle Vie. Et à tous les années, j'allais dîner avec le VP de la banque pour lui parler un petit peu là, de qu'est-ce qu'on voulait, s'il y avait des fonds et tout ça. Et là, je me préparais à cette rencontre-là, à ce dîner-là. Je regarde sur leur site. Je dis, va aller voir leur site, des fois, des choses que je ne connais pas. Je commence à regarder sur leur site et là, je vois tous les financements qu'ils donnent à des organismes anglais, à Toronto, à Nouveau-Brunswick, à plein de places. Et là, je me commence à lire les caractéristiques que ça prend pour être financé. Et là, je m'aperçois que hey, c'est nous, ça. On est pareil comme ça, nous. Pourquoi on n'aurait pas des sous, nous autres aussi, des gros montants de même? Là, j'imprime les feuilles et je commence à souligner en jaune qu'est-ce qui nous caractérise. C'est quoi notre ressemblance? Voici ce que tu finances. Ben voilà ce que nous, on est aussi. Alors, je m'en vais dans mon dîner et on commence à parler super bénéfice, blablabla. Et là, je lui dis, écoute, j'ai regardé sur ton site et t'as quand même des gros fonds. J'aimerais ça voir si on serait capable d'en avoir. Fait que là, j'y montre mes feuilles avec toutes mes choses soulignées en jaune. Qui on est, c'est voici nous, on est ça, on est ça, on est ça. Là, le VP, il regarde la feuille, il dit, ben oui, t'as bien raison. Je dis, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ça, tu sais? Ben, il dit, je vais appeler à Montréal, là, où ils font le financement, tu sais. Fait que là, appelle à Montréal, me rappelle, il dit, OK, on va faire une rencontre. Fait que je rencontre la personne responsable du financement, je fais des webinaires, je fais des téléphones, j'en ai fait, là. C'est du travail. Pour finalement, je réclamais une promesse qui était écrite sur du papier. Mais imaginez si je ne l'aurais pas réclamée, c'était des lettres écrites sur leur site Internet et c'est tout. Je réclamais d'ouvrir le deuxième étage, parce que le premier étage, c'est des appartements. Mais nous, on voulait ouvrir le deuxième étage pour avoir plus, pour aider plus de jeunes, et ça prenait beaucoup de sous. Alors, j'ai soumis une demande, et il m'a appelé, il m'a dit, tu l'as eu. J'ai eu 185 000 pour ouvrir le deuxième étage. Je réclamais la promesse qui était sur le site. La deuxième année, et oui, j'ai réclamé à nouveau. Et la deuxième année, ils nous ont accordé 600 000 sur 5 ans pour le 21-59. Il n'y a pas un organisme au Québec qui a reçu autant. Je parlais au directeur, puis il me disait, il n'y a pas personne au Québec qui a reçu autant que vous. La petite Québécoise a été réclamée son argent à Toronto. Amen! Mais si je ne l'aurais pas réclamé, c'est des lettres sur du papier. Ruth, c'est la même chose. Ruth, il y avait une promesse qui était là. Naomi partage la promesse. Elle la souligne en jaune. Voici ce que tu devrais avoir. Je te souligne ça en jaune. Faut que tu fasses quelque chose. Ruth, elle se lève et elle fait quelque chose. Écoutez bien. Dans Ruth 3, 7 à 11, Boaz mangeait et but et son cœur était joyeux. Elle alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, il y avait une femme couchée à ses pieds. Il dit, « Hey, qui es-tu? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. » Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Il dit, sois béni de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Ruth va au pied de celui qui a la capacité de lui donner un avenir, qui peut la couvrir de son aile, qui peut pourvoir pour elle. Ces femmes saisissent les promesses qui sont disponibles pour elles. Ruth avait la possibilité de rechercher cette protection, cette provision vers beaucoup d'autres endroits. Chez plusieurs autres hommes, elle est allée la chercher vers celui qui avait la capacité et le droit et la promesse de le faire. Ruth 3, 9, c'est moi ta servante. C'est moi ta servante. Veuille me prendre sous ta protection, car tu as à mon égard la responsabilité d'un proche parent. Ruth est venue vers celui qui avait la capacité, le droit de la prendre sous son aile. Cette femme rejetée, réclamait la promesse. C'est incroyable, cette femme, c'est une Moabite. Comment peut-elle réclamer cette promesse? Mais elle la réclame. Elle aurait pu se dire, moi, j'y ai pas droit, je suis inférieure à tous, j'ai pas droit à cette promesse-là. Non, elle va et elle la saisit. Saisit sa rédemption pour rétablir sa famille. Quelle audace qu'elle a! Je suis Ruth, ta servante. « Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Ici, dans ce chapitre, Boaz est une image de Jésus-Christ. Et c'est ce que moi, je suis allée faire. Je suis allée au pied de celui qui avait la capacité d'être mon pourvoyeur, mon protecteur, celui qui avait acquis à la croix ce droit sur moi, celui qui m'a racheté. J'avais la possibilité de trouver ce dont j'avais besoin dans d'autres sources, mais je ne voulais pas d'autres sources. On m'a offert des postes, du travail, plein de positions, mais je ne voulais pas. Je voulais rester près de Dieu, là, à m'attacher à cette cause. Je me suis mis aux pieds de Jésus-Christ. Je lui ai dit, « Je suis ta servante. Veille me prendre sous ta protection, car tu as à mon égard la responsabilité. » Et voici sa promesse pour moi. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Je te promets, ma fille, par le Seigneur vivant, que j'exercerai ma responsabilité à ton égard. C'est Jésus-Christ qui me disait ça. Je promets d'exercer ma responsabilité envers toi. Je te promets d'être un rédempteur. Je te promets d'être un sauveur, d'être un pourvoyeur, d'être un protecteur pour toi. Pour moi, mon Dieu a pris sa responsabilité sur moi, sur ma famille. Savez-vous, dans l'histoire, Boaz connaissait cette loi, cette tradition, mais n'a rien laissé dire à Ruth. La laissant choisir, faire ses choix. Cette femme de rien qui a été rejetée par les hommes, discartée par les hommes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Voici ce que Saint-Esprit, moi, il a déclaré sur ma vie. Voici ce que je déclare sur toi. Je prends ma responsabilité sur toi. Tu es venu à mes pieds pour la réclamer. Je prends la responsabilité de pourvoir pour toi, de te protéger, d'être un mari pour toi. Je prends la responsabilité sur tes enfants. Je serai un père pour eux. Je pourvoirai pour eux. Je vais les conduire. Je vais les guider. Je te promets, par le Seigneur vivant, que j'exercerai ma responsabilité à ton égard. Je serai ton sauveur. Je vais inviter les musiciens à venir s'approcher. Vous savez, ce matin, cette promesse a été déclarée pour moi. Je l'ai saisie. C'était des mots sur du papier, mais j'ai dit non. Moi, je prends cette promesse-là pour ma famille. Je me suis retrouvée un moment seule où j'ai tout perdu, mais j'ai déclaré, je m'attache à ta cause, où tu iras, j'irai, où tu mourras, je mourrai. Je m'attache à toi. Je me suis jetée aux pieds, à ses pieds. J'ai dit, prends ta responsabilité sur moi. Tu as écrit dans ta parole que tu veillerais sur moi. Tu me protégerais, tu me guiderais, tu serais pourvoyeur pour moi et mes enfants et ma famille. Il a déclaré, je te promets. Si tu es ici ce matin, mes chères femmes, mes chères dames, mes consœurs, Dieu vous déclare la même promesse envers vous. Je te promets, entends ma voix ce matin. Je te promets de prendre ma responsabilité sur toi. Si tu viens à mes pieds, je promets de prendre ma responsabilité, de te mettre sous mon aile. Même si tu es un homme, une femme, un enfant, la promesse est à ton égard également. Tu ne connais pas le Seigneur ce matin. Viens te jeter à ses pieds parce qu'il a promis, de veiller. Il a promis d'être ton sauveur, ton protecteur. Viens à ses pieds ce matin. Il t'attend. Il désire être avec toi ce matin. Mais tu as besoin de saisir cette promesse-là. Saisis-la pour toi. Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Alléluia, je vous invite à vous lever ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus. Pendant que les musiciens jouent, j'aimerais vous faire un appel ce matin. La promesse est pour vous. Ruth, elle l'a saisie. Le Ruth, elle aurait pu dire, ben, c'est pas pour moi. Moi, je suis rejetée, je suis une Moabite, je suis même pas une femme d'Israël. Mais Ruth a saisi la promesse. Je vous invite ce matin, peu importe qui vous êtes, de saisir cette promesse-là pour vous.